Chapitre 41. Elle était étendue sur son lit, pâle, abattue, et son visage montrait les signes par lesquels se manifeste ordinairement une vive souffrance. Ses yeux étaient ternes, ses sourcils étaient relevés, tandis que les coins de sa bouche étaient abaissés. Sur son front, des rides verticales et transversales avaient dessiné une sorte de fer à cheval. Mais ce qui donnait à cette physionomie quelque chose d'étrange, qui eût pu frapper un observateur plus attentif que le marquis, c'était l'inégalité de contraction des deux sourcils. Mais il n'était pas en état de faire la moindre observation, ayant bien assez de se soutenir tant il était ému. « Malade ! » dit-il en s'avançant aussi vite que ses jambes fléchissantes le lui permettaient.
« Brisé ! Anéanti ! »
dit-elle d'une voix dolente. Il lui prit la main.
« Ah, mon ami, mon ami !»
s'écria-t-elle en fondant en larmes et en retirant sa main pour se cacher le visage.
« Qu'avez-vous ? De grâce, parlez !»
Elle ne répondit pas. Son corps était secoué par ses sanglots qu'elle semblait impuissante à retenir. Le marquis, penché sur elle, la regardait épouvanté.
« Où souffrez-vous » répétait-il.
Et comme elle continuait à ne pas répondre, « Je vais envoyer chercher Gilet, » dit-il. À ce nom, elle se souleva brusquement et, le retenant avec force par le bras,
« Oh non » s'écria-t-elle.
« Cependant... »«
Pas de médecin, je vous en conjure, pas de médecin !»
Et de nouveau, elle se cacha le visage avec ses deux mains et son drap. Le marquis était éperdu. Que se passait-il? Qu'avait-elle?
« Je vous en prie, dit-il, faites effort pour me répondre. Vous voyez comme je suis effrayé. Ne me laissez pas dans cette angoisse. Il faut vous secourir. »« Tout secours est inutile !»«
Mon Dieu !» Alors elle écarta ses mains et, le regardant longuement, avec des yeux obscurcis par les larmes,
« Oh, Arthur !» s'écria-t-elle, « Dieu nous frappe. Nous étions trop heureux, nos espérances défiaient la fatalité. Nous sommes punis. »
« Mais que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé ?»«
Le plus grand malheur qui puisse nous atteindre. Soyez fort pour le supporter. »
« Mais votre état n'est pas désespéré, il ne faut pas se laisser effrayer ainsi. »«
Mon état, m'effrayer ! Ah, le pauvre ami qui, dans sa tendresse, ne pense qu'à moi ! Hélas, ce n'est pas sur moi qu'il faut pleurer ! Ah, plût à Dieu qu'il ne s'agit que de moi !»
Il la regarda avec effarement, ne comprenant pas. Puis, tout à coup, la lumière se fit dans son esprit bouleversé. « Notre enfant ! » s'écria-t-il. Elle étendit ses deux mains en avant, puis renversant sa tête sur l'oreiller.
« Nous n'avons plus d'enfants, » dit-elle d'une voix sourde.
C'était trop d'émotion pour le marquis. Il s'affaissa sur une chaise qui se trouvait auprès du lit. En le regardant à travers ses doigts, elle fut effrayée de son accablement. Il se tenait immobile sur sa chaise, les bras ballants, la tête penchée sur la poitrine, la bouche entr'ouverte, le regard inerte. N'avait-elle pas, cette fois encore, frappé trop fort? Comment allait-il supporter cette secousse? C'était sur une organisation épuisée qu'elle agissait, et non sur un homme plein de force, capable de résistance. Qu'il souffrît, c'était bien. Qu'il succomba, c'était mal. Par ce temps d'épidémie, il était imprudent d'employer des moyens trop énergiques qui pouvaient le tuer. Pour le tirer de cette prostration, elle se mit à parler de ses souffrances de la nuit. Elle le fit longuement, avec des détails circonstanciés, habilement choisis pour la pitoyer. Non pas qu'elle cherchât à se faire plaindre, de cela elle n'avait nul souci. Mais elle voulait le distraire, et pour cela, il fallait forcer son esprit à se fixer sur un sujet autre que celui qui venait de le jeter dans ce désespoir. Tout d'abord, il parut ne pas l'écouter, ou plutôt ne pas la comprendre. Mais peu à peu, il se laissa attendrir. Alors il releva la tête et la regarda avec des yeux dans lesquels roulaient des larmes.
Pauvre femme, répéta-t-il, pauvre femme.
Et s'étant approché d'elle, il lui prit une main qu'il embrassa tendrement.
Pourquoi ne m'avez-vous pas éveillé ? Demanda-t-il.
Parce que voir votre douleur eût ajouté une douleur nouvelle à toutes celles que j'endurais et que j'étais incapable d'en supporter davantage. Vous ne saurez jamais ce que j'ai souffert.
J'aurais envoyé chercher un médecin.
Et qu'eût-il fait ? Il eût fallu lui avouer la vérité, j'aurais mieux aimé mourir à la peine. Non, il n'y avait qu'une chose à faire, courber la tête sous la main de Dieu, se résigner à la cruelle expiation dont il nous frappait.
Alors, voyant qu'il commençait à revenir de son accablement et qu'il ne serait point atteint d'une attaque d'apoplexie, comme elle l'avait craint pendant la première minute, elle continua le développement de cette idée d'un Dieu vengeur et justicier.
« Moi d'abord, dit-elle, vous ensuite, Arthur, pensez-y, mon ami, et que cet affreux malheur soit pour vous un avertissement. L'expiation a commencé pour moi, à bientôt peut-être votre tour. »
« Trouvez-vous donc, dit-il d'une voix brisée par la douleur, trouvez-vous donc que je n'ai pas été frappé moi-même? Ne désirais-je pas cet enfant aussi ardemment que vous ?»
Pour vous, il n'était pas encore. Moi, j'avais senti ses premiers mouvements, ses premières caresses.
Et les projets que je formais pour lui, et l'avenir que j'arrangeais, tout cela anéanti. Vous avez raison, Dieu nous est cruel.
Oh oui, bien cruel, mais nous serions aveugles de ne voir que la cruauté sans regarder l'avertissement qui nous frappe en même temps. J'ai fait un terrible retour sur moi-même dans le silence de cette affreuse nuit. La main de Dieu est sur nous, Arthur. »
Disant cela, elle courba la tête, comme si cette main pesait de tout son poids sur elle. Mais bientôt, elle se releva et continua.
« Vous, heureusement, vous êtes moins coupable, mon ami. Pour m'aimer, vous n'avez pas trahi vos devoirs, et puis, par les actes de générosité, de charité qui emplissent votre existence, vous avez, au moins dans une certaine mesure, racheté vos fautes. Il me semble que Dieu ne peut pas être dur dans l'autre vie à qui a été bon sur cette terre. Mais moi, qu'ai-je jamais fait pour Dieu? En quoi ai-je racheté mes fautes? Comment? Aussi, pensant à cette effroyable responsabilité, je me disais que nous devions nous séparer. »
Nous séparer? Vous avez pensé que cela était possible?
J'ai pensé que cela devrait être, mais j'ai senti que cela était impossible. Je le voudrais, je ne le pourrais pas. Nous sommes l'un à l'autre pour jamais dans cette vie. Et il faut que nous soyons l'un à l'autre pour jamais dans l'éternité. Comment Dieu nous pardonnera-t-il? Je ne sais. Mais nous chercherons, nous trouverons une expiation. Désormais, nous ne penserons qu'à notre salut, nous nous unirons dans une même prière. Je me ferai la servante des malheureux. Vous, mon ami, vous emploierez votre fortune dans des œuvres pieuses. Nous mènerons une vie chrétienne, et autant nous avons négligé nos devoirs jusqu'à présent, autant nous serons attentifs à les remplir. Vous serez rigoureux pour moi, je serai sévère pour vous. »
Pendant longtemps, elle lui parla sur ce ton. M. Marbeuf, bien certainement, n'aurait pas trouvé des exhortations plus pressantes, plus persuasives. C'était la dévotion la plus tendre, la foi la plus sincère, qui inspirait ses paroles. Enfin, elle termina en priant le marquis d'envoyer chercher le curé de Mulsan. Elle ne pouvait pas différer d'une heure ce grand changement. Qui pouvait savoir si demain elle serait encore sur cette terre ? À cause de son état de souffrance et de faiblesse, leur projet de départ n'était plus réalisable, au moins l'exécution devait en être différée. Elle voulait mettre à profit ce temps de sa maladie pour se préparer pieusement à la vie nouvelle qu'elle allait suivre. Et comme le marquis opposait de timides objections au choix du curé de Mulsan, elle se récria contre cette injuste exclusion.
N'était-il pas le curé de la paroisse? Pourquoi lui causer un chagrin et une humiliation en appelant un autre prêtre? Était-ce là une action chrétienne? elle savait tout ce qu'on pouvait dire contre ce curé. Mais si son humeur était trop jeune, sa piété était fervente. Si son esprit n'était point élevé, son cœur était excellent. Elle n'était pas en position de se montrer difficile sur le choix d'un directeur, et il lui ferait une grâce en voulant bien écouter une pécheresse telle qu'elle était à cette heure. Le marquis ne persista pas, bien entendu, dans sa résistance, et il donna l'ordre d'aller chercher M. le curé. Cet ordre, apporté à l'office pendant le déjeuner des domestiques, souleva une explosion d'exclamations. Le chef, qui était un bel homme et qui se vantait de connaître les femmes, déclara qu'il était épaté. Valérie fut le seul qui ne laissa pas échapper un mot de surprise ou un commentaire malséant. Il avait des principes et il trouvait tout naturel que les autres en eussent aussi. Cela faisait partie de l'éducation de bien mourir. Là-dessus, la femme de chambre affirma que madame n'était pas mourante. « Taisez-vous, ma fille !» s'écria Valérie. « Si madame ne se sentait pas sérieusement malade, elle n'appellerait pas un prêtre, car alors cela n'aurait aucun sens, et je vous affirme qu'elle est incapable de faire une chose qui ne serait pas raisonnable, c'est moi qui vous le dis. » Le curé de Mulsan ne se fit pas attendre et il arriva au château avant le domestique qu'il avait été chercher. On le fit entrer dans la chambre de Clémence où, après quelques mots de politesse, le marquis le laissa seul. Il resta enfermé 2 heures avec sa pénitente et, quand il sortit, on remarqua qu'il paraissait tellement ému qu'il ne trouvait pas son chemin dans ce château où il était venu dîner si souvent. Le marquis, alors, rentra dans la chambre de la malade où il passa la journée entière, assise au pied de son lit. Lorsque le soir arriva, Clémence se fit donner un livre de prière, mais elle se trouva tellement faible qu'elle ne put pas lire. Après plusieurs tentatives, elle tendit le livre au marquis. « Voulez-vous me lire haut la prière du soir ? » dit-elle. « Je la répéterai avec vous. » Il se fit apporter une lampe et, ayant mis ses plus fortes lunettes, il commença cette lecture. Il dut aller jusqu'au bout, sans qu'elle lui fît grâce d'une seule oraison, pas même des litanies de la Vierge dont elle disait les réponses. Le lendemain, ils commencèrent leur journée par dire le chapelet. Mais comme le marquis avait oublié le maniement des grains, elle le lui apprit.